VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Libreville au Gabon. Bonjour à tous. Le président américain Donald Trump doit s'adresser à la nation ce soir à propos de la situation à la frontière avec le Mexique. Les négociations pour mettre fin au shutdown sont toujours bloquées. John Lindon.
Je suis ravi de vous informer que je vais m'adresser à la nation sur la crise humanitaire et de sécurité nationale à notre frontière sud. Mardi soir à 21h, 2h GMT, a tweeté le président américain. Quelques heures plus tôt, la porte-parole de l'exécutif, Sarah Sanders, avait annoncé que le président Trump se rendra jeudi à la frontière avec le Mexique pour rencontrer ceux qui sont en première ligne de la crise humanitaire et de sécurité nationale. Le shutdown, paralysie partielle des administrations fédérales, est entré dans sa troisième semaine. Le président répète à volonté qu'il veut plus de 5 milliards de dollars pour édifier un mur à la frontière sud afin de lutter contre l'immigration clandestine. Il a affirmé dimanche être prêt à ce que ce mur soit fait d'acier et non de béton, si cela permettait de débloquer les négociations. Les démocrates, qui ont repris le contrôle de la Chambre des représentants, sont radicalement opposés au financement de ce mur qu'ils jugent immoral, coûteux et inefficace.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir demain mercredi afin d'entendre le rapport de l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen sur l'accord de trêve et ses récents efforts pour trouver une issue au conflit. Martin Griffiths espère de nouveau rassembler les belligérants autour de la table des négociations, peut-être au Koweït, avant la fin du mois de janvier. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock, doit également faire le point ce mercredi devant le Conseil de sécurité sur la situation humanitaire dans le pays. Des dizaines de combattants ont péri lors de contre-attaques meurtrières menées par le groupe État islamique contre une coalition arabo-kurde dans l'est de la Syrie, a annoncé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Les contre-attaques lancées par l'État islamique dimanche soir à la faveur d'une tempête de sable et de mauvaises conditions climatiques ont tué 23 combattants des forces démocratiques syriennes, les FDS, tandis que 9 djihadistes ont péri en menant ces assauts, selon l'OSDH.
Nos infos sur voaafrique.com.
Le calme est revenu à Libreville, la capitale du Gabon. Une tentative de coup d'état militaire a échoué hier. La circulation a repris sur le boulevard Triomphal, siège de la radio-télévision nationale, la RTG, où l'appel au soulèvement lancé par quelques soldats a eu lieu hier à l'aube. Les précisions, Idrissa Seydou Dia.
La plupart des commerces et lieux de restauration fermés depuis lundi matin avaient de même rouvert ce mardi. Un fort déploiement des forces de sécurité est visible dans la capitale depuis lundi. Dans la nuit de lundi à mardi, des blindés de l'armée gabonaise ont patrouillé en ville. Lundi matin, une dizaine de militaires de la garde républicaine avaient tenté un coup de force en appelant sur la radio d'État au soulèvement pour, je cite, « sauver le pays du chaos ». Le chef du commando a été arrêté, deux de ses hommes abattus par les forces de sécurité, tandis qu'Internet était coupé dans le pays. Cette tentative de putsch, condamnée unanimement par l'ONU, l'Union africaine et la France, est quasi inédite au Gabon. Petit pays d'1,8 million habitants réputé stable, elle s'est déroulée en l'absence du président Ali Bongo Ondimba, qui se trouve hors du pays depuis 2 mois et demi, et poursuit actuellement sa convalescence au Maroc. Sa date de retour au Gabon est inconnue.
Violence en RDC, au moins 8 civils, dont des membres de familles de militaires, ont été tués dans la nuit de lundi à mardi dans une incursion d'hommes armés à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon l'armée. La police, qui avançait le même bilan, a ensuite revu à la hausse son décompte, qui est passé à 10 morts. Un responsable de la société civile et un observateur ont avancé le bilan de 11 civils tués. La ville et le territoire de Beni sont depuis octobre 2014 la cible d'attaques généralement attribuées au groupe armé d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées, les ADF. Le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé une réunion sur l'élection présidentielle en République démocratique du Congo à la demande de l'Afrique du Sud. Les détails avec Irénée Manumbo.
La réunion publique prévue initialement ce mardi aura lieu vendredi prochain. Les 15 réunis à huis clos vendredi dernier n'avaient pas réussi à s'entendre sur un communiqué de presse avant la publication des résultats en RDC. L'Afrique du Sud, aux côtés de la Russie et de la Chine, a pesé pour retarder toute initiative jusqu'à ce que les résultats soient annoncés. Dimanche, la CENI en RDC a renvoyé renvoyé la publication des résultats provisoires, affirmant que seuls 53% des procès-verbaux ont été traités depuis le scrutin du 30 décembre. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que les Nations Unies ont hâte de voir la publication dans les meilleurs délais des résultats provisoires. Avant la réunion du Conseil vendredi, l'ambassadeur sud-africain à l'ONU, Jerry Matila, avait confié à des journalistes que le monde devait être très, très patient pendant le décompte des voix. La France avait souhaité une déclaration au nom du Conseil pour exhorter Kinshasa à respecter l'issue du scrutin.
L'ancien ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang, doit comparaître ce mardi devant un tribunal sud-africain, interpellé le 29 décembre 2018 à l'aéroport Oliver Tambo de Johannesburg. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt américain en rapport avec des prêts secrets de 2 milliards de dollars octroyés au Mozambique entre 2013 et 2014. Les précisions, Timothée Donangmaï.
L'affaire ressemble à un scénario hollywoodien. Des banquiers londoniens, investisseurs internationaux et responsables mozambicains montent des dossiers fictifs. Plusieurs compagnies nationales mozambicaines chercheraient des prêts pour rebâtir leur pays sortant d'une guerre civile. Vu les richesses minières du Mozambique, quelques 2 milliards de dollars de prêts sont octroyés à l'insu du gouvernement, des fonds qui prennent d'autres destinations que le trésor public. Ce n'est qu'en 2016 que le gouvernement mozambicain découvre le poteau rose. Ne pouvant pas honorer cette dette massive, le pays se retrouve en défaut de paiement. Une crise économique s'en est suivie avec la chute de la monnaie nationale et une flambée des prix. Au moins 4 personnes ont été arrêtées en rapport avec cette affaire et attendent d'être extradées vers les États-Unis. Parmi eux, l'ancien ministre mozambicain des Finances, Manuel Chang, interpellé la semaine dernière en Afrique du Sud. C'est un développement majeur, estime l'analyste Alex Vines du groupe de recherche Chatham House à Londres.
So it looked as if nothing would happen about these many millions, probably billions of US dollars that were accounted for.
C'était comme si rien ne serait fait concernant ces millions, probablement milliards de dollars disparus. Les principaux suspects ont été inculpés par un tribunal fédéral de New York et c'est un développement majeur, un tournant.
Is very, very significant and is a game changer, I think.
Les Mozambicains ordinaires applaudissent le coup de filet. Mais les dirigeants gardent le silence, relève le commentateur mozambicain Fernando Lima.
It caused this huge, huge embarrassment.
Cela a causé un grand embarras au gouvernement actuel. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'aucun responsable mozambicain ne s'est prononcé sur l'arrestation de M. Chang. Ni le gouvernement, ni le parti Frelimo au pouvoir, ni le procureur général, ni même notre parlement.
On ignore l'impact que pourrait avoir cette affaire sur le président Philippe Nyusi, ministre des Finances, au moment de ses prêts fictifs. Entre-temps, le FMI et les bailleurs de fonds qui avaient gelé les prêts au Mozambique sont maintenant impatients de tourner la page, d'autant plus que le Mozambique commencera à exporter du gaz naturel à partir de 2023.
Madagascar est à l'écoute de la Haute Cour constitutionnelle malgache, la HCC. Elle doit proclamer aujourd'hui les résultats officiels de l'élection présidentielle du mois dernier. La victoire à l'issue du scrutin a été attribuée à Andrew Rajoel, malgré les accusations de fraude de son rival Marc Ravalomanana. L'actuel président de l'État semi-autonome du Puntland, dans le nord de la Somalie, Abdi Weli Mohamed Aligaz, a été éliminé aujourd'hui au premier tour de l'élection pour désigner son successeur. Il figurait parmi les 21 candidats, tous des hommes. À l'issue d'un second tour, 2 candidats restaient en lice, Saïd Abdoulaye Deni, un homme d'affaires influent et ancien ministre du gouvernement fédéral, et le général Assad Osman Abdoulaye, ancien chef des services de sécurité du Puntland. Le nom du futur président devait être connu dans la journée. Et puis, je l'ai dit, le calme est revenu à Libreville, la capitale du Gabon, où une tentative de coup d'État militaire a échoué hier, d'après l'AFP. La circulation a repris sur le boulevard de bord de mer, sur le boulevard Triomphal, le siège de la radio-télévision nationale, où l'appel au soulèvement lancé par quelques soldats a eu lieu hier à l'aube. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous sur le continent. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.